France Inter.
Chanter le blues, extrait du dernier disque de Michel Jonas. Bonjour Michel Jonas.
Bonjour Vincent.
Est-ce que je prononce bien votre nom ?
Très bien, Jonas.
Et si je devais le prononcer en hongrois ?
Vous direz Jonas.
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 Un disque avec des amis fidèles, Jean-Yves D'Angelo au clavier.
Oui.
Manu Katché, le batteur qu'on connaît bien. Oui. Voilà au moins deux des fidèles compagnons de route de Michel Jonas.
Oui, avec qui nous sommes toujours d'ailleurs, enfin on est toujours ensemble quoi, et puis on partage la scène, on a fait cet album ensemble, avec d'autres musiciens bien sûr. On s'est enfermé pendant une dizaine de jours dans un studio qui se trouve à Salon de Provence, qui s'appelle La Fabrique, qui est très sympa parce qu'il y a des chambres, on peut y dormir. On mange ensemble, on prend le petit-déj ensemble. Donc on a eu Daryl Jones à la basse, qui est le bassiste des Stones, et on avait eu la chance que les Stones n'étaient pas en tournée. Le guitariste que vous entendez faire un petit solo, c'est Dean Parks, un très réputé guitariste, mais qui bon, ces deux-là ne sont pas avec nous sur scène, mais on n'y perd pas aux chances, puisqu'on a de très bons musiciens, Jérôme Regard et Jim Grandcamp.
Pourquoi c'est important de fidéliser, si je puis dire, ces musiciens? J'en ai cité deux au moins qui ont travaillé depuis des dizaines d'années avec Michel Jonas. Qu'est-ce qui se passe en studio quand on se connaît bien?
Et sur scène surtout, parce que le but c'est la scène. Ce qui se passe, c'est que la musique, c'est pas simplement un pupitre avec des accords et puis un instrument. C'est important d'avoir un lien subtil qui se tisse entre les musiciens et entre moi et les musiciens, entre nous. Ce lien subtil, il fait toute la différence. Parce que je pense que nous avons une espèce de... Bien sûr, il y a l'amitié qui est sincère. Et on a commencé après avec Jean-Yves D'Angelo et Manu Katché, on a pratiquement commencé ensemble dans les années 80. Et il y a un respect et une admiration commune, enfin réciproque. Et puis c'est surtout le plaisir et la joie de faire de la musique ensemble, ce qui est, on peut pas faire de la musique par devoir, c'est incompatible. Donc on a cette joie partagée, que nous espérons évidemment partager avec le public.
Le plaisir de jouer ensemble, oui, avec des copains, c'est pour ça, un public fidèle. Je vous le disais, quand vous êtes arrivé, la technicienne Annix de 26 ans a dit « chouette, Michel Jonas », qui prouve que vous passez les générations.
Oui,
ça doit faire plaisir.
Oui.
Est-ce que le plaisir est le même qu'à vos débuts, à la fois d'être devant un public, d'écrire et de composer des chansons?
Alors, au début, j'écrivais pas. Le plaisir d'écrire est venu un petit peu après. Oui. Il est venu à partir du troisième album.
77?
Oui, même un petit peu avant. Mm. Mon premier album était 74, le deuxième 75. Je faisais un album tous les ans à cette époque-là. Et c'est à partir de 76-77, effectivement, que je suis devenu auteur-compositeur. Par contre, le plaisir d'être sur une scène, ce plaisir, mais tout simplement physique, de faire de la musique. Alors ça, je ne l'ai jamais perdu. Et je me suis programmé pour ça. Je me suis dit, cette chose-là, ce truc-là, ce sentiment, je ne veux pas le perdre. Et je n'ai jamais chanté parce que j'avais un crédit à payer ou parce qu'il y avait un contrat qui a été signé. Donc, à chaque fois, j'ai, pareil, 16 ans, 17 ans, 18 ans, quand je monte sur une scène, même encore au jour d'aujourd'hui, oui.
Ça permet de ne pas vieillir.
Mais oui, c'est vrai, parce qu'en plus, vous savez, l'enthousiasme, c'est ça. C'est-à-dire, l'enthousiasme, c'est quelque chose qui vous porte et qui vous nourrit. On le dit, c'est assez banal de dire ça, que la musique, ça vous donne une force, et c'est vrai, mais quand on monte sur scène, ça vous donne de la cet échange entre le public, les musiciens et moi, ce trio-là, ça effectivement, ça recharge en énergie.
Quand vous serez très très vieux, le plus tard possible, vous allez mourir, comme nous tous.
Ben, je suis pas sûr. Hein.
Est-ce que vous n'êtes pas sûr? Vous pensez que vous allez être centenaire?
Centenaire?
Ouais.
Ah oui.
Pourquoi vous êtes si sûr de vous?
Ben, je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi. Je ne crois pas que le corps est fait pour mourir à 100 ans, quoi. Il est fait certainement pour vivre plus longtemps.
Et vous chanterez encore?
Ah, ça, je ne sais pas. Mmh. Peut-être que je chanterai si j'ai encore envie de chanter. Parce que c'est ça, le moteur. Hein. C'est ça qui m'anime.
Mais ce n'est pas parti depuis vos 16 ans. Il n'y a pas de raison.
C'est pas parti. Oui, c'est vrai.
Alors,
c'est
moi, je voulais parler de votre tombe, c'est pas très joyeux. J'imaginais Michel Jonas, joueur de blues.
Ah, vous voulez ça comme tombe?
Oui, je pensais à ça pour vous. Michel Jonas, chanteur
très bien,
de blues.
Bah, écoutez,
est-ce que ce serait juste?
Joueur de blues?
Ouais.
Bah oui, ce serait pas mal. Vous pourrez dire ça dans 50 ans à mes enfants?
Mais oui,
mettent ça sur le.
Qu'est-ce que vous en pensez? Si ça vous convient.
Non, parce que. Ça me va. Il n'y a pas de problème.
Depuis la boîte de jazz, on n'arrête pas de dire que Michel Jonas, c'est le chanteur de jazz français, etc. Puis au bout d'un moment, ça vous a un peu agacé. Vous dites non, soyons précis, c'est non, pas le jazz, c'est le blues.
Oui, parce que mais j'ai déjà dit plusieurs fois, effectivement, que cette chanson a eu un très gros succès et je l'en remercie, mais il y a un malentendu, parce qu'on m'a souvent parlé de jazz. Or, c'est pas du tout mon école. C'est pas le jazz qui m'a donné envie de faire de la musique. J'y connaissais rien. Moi, ado, ma musique, c'était le rock'n'roll qui venait d'arriver. D'un seul coup, on entend un son différent. D'un seul coup, on entend une batterie, une basse, des guitares électriques, etc. Et c'était le rock'n'roll. Et bien sûr, le blues, parce que derrière le rock'n'roll, il y a le blues. Donc, j'ai eu envie, effectivement, j'ai commencé par chanter du blues. Et puis, du rhythm and blues. Mais mes premiers coups de foudre, ça, je l'ai souvent raconté aussi. Oui. Le premier coup de foudre, ça a été Red Charles. Mais Red Charles, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Ben oui, il faisait du blues, il faisait un peu de rhythm and blues aussi. Alors, effectivement, j'ai apprécié aussi tout ce qui est rhythm and blues, c'est-à-dire ce qui a suivi. James Brown, Wilson Pickett, Otis Redding, etc. Tous ces gens-là, Sam and Dave, etc. Donc, je viens de là, de cette musique plutôt black que la musique anglo-saxonne, que j'apprécie aussi. J'aimais beaucoup les Stones, les Beatles, etc. Mais c'est pas cette musique-là qui m'a donné envie d'en faire.
Alors, si je vous dis, je suis assez joueur, vous pouvez poursuivre en chanson. Hein. Si je vous dis Michel Jonas, hey mama, don't you treat me wrong?
Hey mama, don't you treat me wrong? Come and love me baby on a long, all right. Ah bah oui, ça c'était un grand moment. Ça,
ça c'est le jeune Jonas qui devient fou en écoutant ça.
J'étais, mais pas fou parce que.
Fou de joie.
Mais surpris quoi. C'est-à-dire, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me rappelle encore, c'était dans le sud, j'étais dans une salle. Vous savez, avant, il y avait des salles de jeu avec plein de flippers dans les stations balnéaires. J'étais avec ma sœur, on jouait aux flippers, et il y avait un jukebox. Et j'entends Ray Charles. Alors là, say mama can I go tonight, etc. Là, ça m'a fait un choc. Voilà, ça, je me lasse pas.
Send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. Oh, play boy.
Ben voilà, vous écoutez ça et vous comprenez tout, Michel Jonas, ou presque.
Oui, je crois que c'est ça l'histoire. C'est que ça m'a tellement marqué que, en fait, dans ma vie artistique, ça a été mon but, c'est-à-dire de réussir à faire le lien entre là où je me reconnaissais, c'est-à-dire dans l'amour des mots et de la poésie de Brassens, la force de l'interprétation de Brel, la force de l'émotion de Piaf, etc. Modestement, je me compare pas à ces grands-là, mais cette pulsion rythmique d'un seul coup qui était là et puis qui rentrait en moi et que là, les mots n'avaient même plus d'importance, c'était quelque chose, vous voyez, quelque chose qui me portait rythmiquement.
Ah oui.
Alors, je pense que, oui, dans mon travail d'auteur, compositeur, interprète, j'ai voulu relier ces deux choses-là, c'est-à-dire la musique peut être, doit être au service des mots, des paroles, du texte, mais elle peut aussi porter en elle cette pulsion rythmique qui m'anime, moi, depuis toujours.
Je l'ai vu parce que votre main droite battait sur la table.
Oui, mais ça, c'est vrai. Alors ça, c'est... Quand j'ai commencé, il y avait des groupes dans mon quartier. Et un jour, il y a un groupe qui cherchait un pianiste. Et j'ai dit, eh ben, je suis pianiste. Mais je ne savais pas jouer. J'étais pas bon pianiste.
Vous aviez un culot fou, quand même.
Je ne savais rien. Je ne savais même pas où était le do sur le piano. Sauf que j'avais appris à faire ce What I Said, ding, 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 avec les deux mains.
Oui.
C'est tout ce que je savais.
Il y a un des musiciens qui a dit, t'es bon, toi.
Non.
Non.
Il y a un des musiciens qui m'a dit, on joue en do. What a lot of shaking going on. Oui, mais moi je ne savais pas. Et j'ai eu du bol. Le bassiste qui était à côté de moi, on était un groupe d'amateurs, hein, les années 60, je rappelle, me fait avec sa main, me plaque l'accord de do mi sol, hein, de l'accord de do majeur du do. Et moi j'ai repéré ce qu'il avait fait, et j'ai fait ça avec les deux mains. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pianoter, quoi. Hein.
Un destin, ça tient à rien.
Ça, voilà. What I say.
À quelques doigts, voilà. on a cherché dans la playlist de France Inter des musiciens qui aiment le blues, qui jouent du blues. On a trouvé le groupe Delgrès avec Valentine chez Debois. C'est un trio qui joue une sorte de blues rock de la Nouvelle-Orléans, façon créole. Vous allez écouter ça. Leur nom rend hommage à Louis Delgrès, héros de la lutte contre l'esclavage en Guadeloupe. La nouvelle chanson s'intitule « Promis le ciel ».
C'est arrivé en pleine nuit, un petit peu après minuit. J'étais déjà endormi, en deux minutes je suis réveillé. Je me retrouve les chaînes aux pieds, pas le temps de respirer. Ils ont fait un signe de croix, on était tous baptisés, baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Les parents et les enfants de l'autre côté, on était bien alignés comme dans un supermarché. Avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillé. Ils ont fait un signe de croix, on était tous embarqués. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Sur la terre à ramer, à ramer. Tiens, là l'orage qui arrive, on va encore dégueuler. Ça fait des semaines comme ça qu'on est tous là enchaînés. Pas moyen de se lever,
se laver. Pareil que c'est la félicité, puisqu'on est tous baptisés, baptisés. On m'a promis le ciel, maintenant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, maintenant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, maintenant je suis sur la mer. On m'a promis le ciel, maintenant je suis sur la terre. Amen.
La vie du spécialiste, Michel Jonas, sur Delgrès.
Vous aimez beaucoup. Oui, et c'est là où on voit comment la musique, elle évolue, en fait. Parce qu'il y a, la musique qui nous nourrit quand on est môme, quand on est jeune. La langue qu'on a apprise, bien sûr. Parce que si on était enfant loup, je ne sais pas ce qu'on ferait comme musique. Oui, c'est ça. Ça pourrait être intéressant, d'ailleurs. Et puis, ben, il y a sa petite touche qu'on amène, personnelle, à travers son propre filtre et ses propres goûts. Donc ça, c'est un bon exemple. Et c'est très original. J'aime beaucoup les arrangements. Et puis, il y a vraiment une atmosphère et un univers très particulier.
J'espère que vous allez rencontrer Delgrès. En tout cas, pour mieux connaître ce groupe, on peut écouter la chronique qu'a consacrée au trio Mathieu Conquet sur France Inter le vendredi 17 novembre. Vous allez sur franceinter.fr. J'ai lu pas mal vos paroles du dernier disque, Chanter le blues. Il y a par exemple, quand j'ai besoin de vider mon sac, il est là, il est toujours là, mon pote le blues. J'ai l'impression que pour Michel Jonas, c'est un copain, et je me demande s'il vous permet de vider votre sac.
En quelque sorte, oui. C'est un petit peu le but du blues, hein. C'est comme une espèce de, c'est une complainte, hein. C'est ça le blues. Et puis d'ailleurs je le dis sur scène, c'est-à-dire même au tout début je commence par la chanson qui s'appelle Mon pote le blues justement, et puis je leur dis, vous savez, c'est un hommage au blues, mon spectacle qui s'appelle du blues, mais même si c'est bien sûr l'invité principal du disque ou du spectacle, il n'y aura pas que du blues dans sa forme traditionnelle. Mais si on écoute mes chansons, et même depuis longtemps, on voit bien qu'il y a un lien familial entre mes chansons et le blues. Parce que pour moi, et c'est ce que je dis aux gens, pour moi le blues c'est comme quand on a un besoin de se raconter, un besoin d'avoir un ami qui vous écoute. Hein, et on ne peut pas faire autrement que de parler et en fait de se raconter ou de raconter sa peine, par exemple, ou quelque chose qui vous est arrivé, une histoire. Ça peut soulager, ça peut même guérir, ça peut faire un effet assez important. Et c'est ça aussi la force de la musique et du blues, c'est-à-dire que je pense que la voix chantée, elle est plus proche de sa vérité profonde, de son identité profonde, que de la voix parlée qui peut prendre des détours. On peut des fois, par exemple par pudeur, moi j'ai une forme de pudeur qui fait que je peux avoir quelques difficultés à exprimer des émotions et des sentiments.
Donc vous êtes plus sincère en chantant.
Je crois que là, il n'y a pas de triche possible. Même si ce n'est pas des chansons autobiographiques, mais des chansons, elles racontent des histoires et elles expriment des émotions et des sentiments. Ce qui est quand même assez pratique.
J'essaie de connaître, à travers les paroles que vous allez prononcer, le jeune Michel Jonas, avec un grand-père juif hongrois, avec des parents qui ont émigré tout jeune en France. J'imagine, mais peut-être que je suis dans le cliché, vous allez nous dire, Michel Jonas, qu'il y avait des chants à la maison, qu'il y avait des disques de musique tzigane, et que peut-être le dimanche, chez les grands-parents, on chantait.
Mais c'est ça. Le dimanche, chez les grands-parents. Alors, les grands-parents paternels, puisque les grands-parents maternels, malheureusement, étaient restés en Hongrie. Effectivement, mes parents sont d'origine, étaient hongrois.
La Shoah a touché votre famille.
Ah bah oui, la Shoah a touché, donc, puisque mes grands-parents maternels et quatre des enfants ont été déportés, deux de France, puisqu'il y avait sept enfants mon grand-père, dont j'ai raconté l'histoire d'ailleurs à travers une pièce de théâtre qui s'appelait Abraham.
Eh oui.
Mon grand-père était cantor, il chantait dans les synagogues. Paraît-il qu'il chantait très bien. Ma mère me disait toujours, Michel, tu chantes bien, mais pas aussi bien que ton grand-père encore.
Elle vous l'a dit dans votre loge plus d'une fois. Hein.
Plus d'une fois. Et donc, mon grand-père maternel, ça malheureusement... Évidemment, je ne l'ai pas entendu chanter. Et sur les 7 enfants, 5 sont venus en France, dont ma mère. Et puis.
Et donc le chant à la maison.
Et alors, donc.
Le chant familial.
Le chant familial,
c'était. Et la transmission.
Donc mes grands-parents paternels que j'ai connus, avec ma grand-mère, très bonne cuisinière, eux s'étaient rencontrés sur une scène de l'opérette à Budapest, en Hongrie. Et donc, effectivement, le repas familial du dimanche, qui durait toute la soirée, hein, à la fin du repas, immanquablement, un tourne-disque, je crois que c'était un tourne-disque qui était mis sur la table, et on écoutait ces musiques tziganes hongroises qui rappelaient à mes grands-parents leur pays d'origine. Et c'est effectivement la première musique que j'ai entendue. « Et diablok na laimek tzigane, out mujikane, o shirionos anse, pleagne, oyon les diennes, min tête que niesel el mi vol, l'hommage. » Des choses qui étaient assez émouvantes, avec des violons qui pleurent, etc. Et surtout, ce qui était marquant pour moi, c'était que c'était la première fois que je me rendais compte de la force de la musique. Mais enfin, inconsciemment, là je le dis avec des mots d'adulte, mais je sais que môme, je voyais le visage de mes grands-parents changer en écoutant la musique.
Est-ce que ce visage était joyeux ou triste?
Vous savez, c'est ce qu'amène la musique tzigane ou la musique, je ne sais pas, ou le blues, ou bien le tango, ou bien Piaf, c'est-à-dire qu'il y a une déchirure. Mais en même temps...
Ça, c'est votre mot, la déchirure.
La déchirure, parce que j'ai senti ça. Mais en même temps, il y avait un truc où ben, on est vivant. On est là, quoi. On est vivant et on écoute. Donc, il y avait effectivement ça comme une larme à l'œil. Mais je ne trouvais pas ça triste. Je trouvais ça beau. Je trouvais ça fort.
On va vous faire écouter Edith Piaf parce que le jeune Michel voit avec son père, si je ne m'abuse.
Grâce à mon père qui m'a pris par la main, il m'a Edith dit Piaf. Il faut que je t'amène voir quelqu'un. C'est ça.
Comment elle faisait quand elle interprétait la foule Edith Piaf?
Mais vous savez, Piaf, c'était incroyable. C'est-à-dire, on annonçait, accompagné par le grand orchestre de Edith Piaf. On ne voyait même pas les musiciens au début. Elle arrivait tout doucement comme ça. Elle s'arrêtait devant le micro et puis elle ne bougeait pas. Elle avait ses mains, des fois plaquées contre ses cuisses, un petit peu les mains qui montaient, qui entouraient son visage comme ça, etc. Et elle bougeait, mais un tout petit peu, peut-être que la foule, peut-être qu'il y avait les bras qui faisaient comme si elle dansait un petit peu. Mais la voix qui sortait, qui remplissait cette salle.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
On ne se lasse pas de cette interprétation de la foule, ni de ses paroles, sont d'un autre temps, parce que c'est une histoire de A à Z, une narration, un petit film, un court-métrage, Michel Delacroix.
Un court-métrage, et c'est drôle, vers la fin, quand vous me demandiez ce qu'elle faisait, là, je me souviens que sur cette fin-là, orchestre instrumental, là, elle dansait un petit peu comme ça, elle tournait un petit peu sur elle-même, elle faisait une valse, etc.
C'est ce que montrent les images sur le napkin.
Oui, c'est vrai, ça se montre les images. Oui, c'est une petite histoire, c'était...
Plus comme ça.
Non, on n'écrit plus comme ça, il y a quelques chansons quand même, mais ça fait partie vraiment de cette tradition de la chanson française qui fait qu'on raconte des histoires. Brel, c'était pareil, c'était des petits films, c'était des paysages, c'était des histoires.
Vous l'avez vu aussi en scène ?
Comment ?
Vous l'avez vu en scène aussi ?
Tous les soirs, j'allais voir Brel tous les soirs. À l'époque, il y avait à l'Olympia, au bout de l'orchestre, c'est-à-dire tout au fond, un truc qui s'appelait les promenoirs, et on payait 5 francs, je me rappelle, de l'époque, et donc on était debout, et donc moi j'allais le voir tous les soirs, bien sûr, oui, j'ai vu ce Amsterdam combien de fois, et il y avait une force de l'interprétation incroyable, et puis, voilà, il décrivait des moments, c'était des films, comme là, il y a vraiment un film, on voit les images, et donc ça me confirmait ce que peut provoquer le chant, la voix humaine, et la musique sur les êtres humains, quoi, quand on écoute et qu'on est emporté.
Vous la découvrez quand et à quelle occasion, Michel Jonas, votre voix chantée ?
La première fois, c'était que j'étais avec un groupe qui s'appelait Vigon et les Lemons. Et Vigon, qui chante toujours d'ailleurs. Et moi, je joue un peu d'orgue avec lui derrière. Et Vigon, un jour, me dit « Michel, je voudrais que tu chantes une chanson avant que moi je monte sur scène. » Pour qu'il ait comme une espèce de première partie. Et je crois que c'est la première chanson que j'ai chantée sur scène, et que je chante toujours aujourd'hui sur scène. J'avais donc choisi un standard du blues qui s'appelle Uchi Kuchi Man, qui a été créé par Muddy Waters, qui est vraiment un tube, un standard dans le blues, qui a été repris par de nombreux interprètes. Donc ça, c'est la première chanson. Et ensuite, j'ai créé un groupe avec mon copain Goldstein, Alain Goldstein. Et puis, il n'y avait pas de chanteur. Il me dit, écoute, t'as qu'à être le chanteur.
Mais on ne sait pas forcément chanter quand on vous le demande. Ils étaient au courant que vous aviez une voix ?
Mais non. Mais moi non plus, j'étais pas au courant.
Vous avez vraiment du culot.
J'ai découvert, oui, non, j'étais pas au courant. Mais en même temps...
Mais vous étiez attiré.
Oui, j'étais attiré. J'étais attiré.
Parce que le jeune Michel arrête l'école, parce qu'il est... Oui. Il est pas très bon, il s'intéresse pas à l'école, à 15 ans. Et là, vous avez quand même des super parents, parce que vous avez un parcours très libre sur le plan
très
artistique.
Libre, oui,
vous faites,
très libre.
Vous apprenez à peindre, vos parents vous permettent de prendre des cours de théâtre, MJC par exemple. Si je vous dis, malgré notre surprise et mon insuffisance, je vous obéirai, Seigneur, sans complaisance.
Et mes bas le respect qui pourrait m'empêcher de combattre un avis où vous semblez pencher. Je m'en rappelle encore.
Sina.
C'est ça, c'est le premier texte que j'ai appris dans un cours d'art dramatique que dirigeait un monsieur qui s'appelle Guy Kayat, qui est décédé depuis, et qui avait créé le théâtre 71 à Malakoff. Donc, oui,
grande liberté.
Une liberté. Et j'ai commencé, effectivement, par l'art dramatique, avant de faire de la musique. Mais en même temps, dans les années 60, arrive le rock'n'roll, il y avait le journal Salut les copains, et dans ce journal, il y avait des petites paroles de chansons, les chansons que chantaient les groupes de l'époque, c'est-à-dire les pirates, c'est-à-dire les Chaussettes Noires. Moi, j'étais fan. Quand je vois Eddie Mitchell aujourd'hui, je lui chante des chansons des Chaussettes Noires. Et ça le fait beaucoup marrer. Ou les Chats Sauvages, etc. Et donc, mon copain Goldstein, qui jouait de la guitare électrique dans son coin comme ça, et ben moi, je découpais les paroles des chansons de Dick Rivers. Tu as 20 en grec et en latin. Tu as 20 en maths, c'est très bien. Et puis, j'allais chez lui. Il prenait sa guitare électrique, vraiment les premières. Et puis moi, je lisais le texte. Et puis, je chantonnais comme ça, quoi.
Il y a eu un titre qui a bien marché, qui s'appelait « Apesanteur ».
Oui, alors ça, c'était avec le groupe Le King Set, effectivement. Cette chanson passait beaucoup à la radio.
Il y a eu une autre chanson. On va écouter un petit extrait, parce que moi, je ne reconnais pas votre voix. C'est une chanson qui marche aussi, qui s'appelle « Jezabel ». 68, Michel Jonas.
Oh là là.
Ce démon qui brûlait mon cœur, cet ange qui séchait mes pleurs, c'était toi, Jezabel, c'était toi. Ces larmes transpercées de joie, Jezabel, c'était toi. Jezabel, c'était toi. Mais l'amour est
Michel Jonas, sans vous offenser.
Bah,
vous
j'avais 20 ans.
Vous aviez des cheveux et des pattes.
J'avais des pattes, oui, des pattes. Et bon, pas mal de cheveux, oui.
C'était quoi votre désir et votre rêve en 68?
En 68, c'était une drôle d'époque, hein, 68.
Ouais, justement, vous pensiez déjà dans la musique. Là, c'était fait, le départ était donné.
Oui, en fait, mon obsession, je crois, en quittant l'école, donc en seconde, c'était de me sentir libre, d'être libre. Et puis, bon, bah, la musique, elle est arrivée, vous savez, elle m'a pris comme ça, elle m'a emporté. Donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe au début d'une carrière pour une chanteuse ou un chanteur? On est un peu dans l'ego quand même beaucoup dans l'ego. Mais cet ego-là, c'est un moteur. Il est important de l'avoir, parce que personne ne croit en vous. Moi, on me décourageait, on m'a longtemps découragé. Mais seulement j'avais... Alors, la première qualité, hein, quand quelqu'un veut chanter, la première qualité, c'est l'intime conviction que c'est ce que vous allez faire dans votre vie. Moi, je savais que c'est ce que j'allais faire dans
ma vie.
Est-ce
que dit Rilke dans L'être
à un jeune poète, début, ouais. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à toucher la musique, je me suis dit, c'est ça que je vais faire dans la vie. Donc, pourquoi on est dans l'ego? Parce que moi, je savais que j'avais besoin de notoriété. Parce que c'est la notoriété qui vous permet d'enregistrer des disques et qui vous permet de faire des spectacles. Donc, c'était un but. Mais à un moment donné, quand quelque chose commence à s'installer avec un ou deux succès, ça se calme, ça. Ça ne peut pas être un but toute votre vie, ça.
Vous êtes moins égocentrique aujourd'hui, Michel Jonas?
Ah, mais bien sûr. Parce que moi, j'ai très vite compris que la notoriété, c'est-à-dire le succès, ne pouvait être qu'un outil, qu'un moyen. Et jamais un but.
Le succès, vous l'avez dès 74. Dites-moi, Super Nana.
Oui, Super Nana, dites-moi.
Suivront les vacances au bord de la mer, voilà. Je voulais te dire que je t'attends, etc.
Et donc, le succès, c'est une voix qui vous dit, t'es sur la bonne voie et tu peux continuer à faire des disques. Il y a des gens qui vont venir, il y a des gens qui vont venir t'applaudir. Donc, tu peux faire des spectacles dans des bonnes conditions des disques parce qu'il y a un petit peu d'argent, etc. Donc, c'est ça que ça permet le succès. Le succès, c'est une obsession au début d'une carrière parce que c'est le seul moyen de pouvoir pratiquer son art.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une obligation de faire des tubes après? Est-ce que ce n'est pas aussi un danger?
Oui, mais alors ça, j'ai très vite compris que si j'écoutais contre mon intuition quelqu'un qui me dit « Michel, avant de faire un album, il faut que tu fasses un succès. Tiens, écoute ça, c'est pas mal. Ou tiens, tu devrais faire ci ou ça. » Mais je me suis planté. On se plante. Quand on ne s'écoute pas soi-même, on se plante. Ça ne peut pas être la voie du succès si ce n'est pas votre voie. Voilà, moi, j'ai compris très vite ça, c'est pour ça que j'ai exigé d'être mon propre directeur artistique, et après, ça a toujours été comme ça. Donc, c'est pas un danger. Le danger, c'est que si on s'en rend pas compte, et c'est toujours aujourd'hui la même chose, c'est-à-dire, quelquefois, on me demande comment vous choisissez les chansons quand vous préparez un spectacle. Je les choisis pas en fonction de ce que les gens pourraient attendre, c'est-à-dire les vacances au bord de la mer, ou la boîte de jazz, mais ce que j'ai envie de chanter. Alors, il se trouve que des fois, ça correspond. Je chante toujours aujourd'hui avec le même plaisir, joueur de blues, la boîte de jazz, ou je veux pas que tu t'en ailles, ou du blues. Mais, quand on me dit, pourquoi tu chantes pas, tu chantes plus, dites-moi, tu chantes plus les vacances au bord de la mer, ben non, j'ai plus envie. Donc je peux pas chanter par devoir. C'est impossible. Ça plairait pas.
Ça vous dérange pas si on les écoute au disque?
Ah, mais ça me dérange pas, non.
Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau. Les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt. Sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. Je veux aller où l'air est plus doux, où la colombe volant dessous, où le printemps entre un jour comme un fou. Vous saisis au revers, au détour d'un chemin vert, et vous dit ça va pas comme ça. Changez tout. Changez tout, votre monde ne tient pas debout. Changez tout, changez tout, changez tout. Je voulais des vagues et des S, avec une âme moi ma déesse. Et je roulais tout en zigzag et n'importe où, avec mes confettis, mes blagues.
veux pas que tu t'en ailles. Tu peux toujours croire que les petites cases de la mémoire peuvent s'ouvrir comme des tiroirs et laisser partir les souvenirs. Tu sais, je t'aimais tellement fort que je t'aime encore. Je m'en rappelle, il y avait dans ma ville une fille qui s'appelait Lucille. Un vieux roc portait son nom, mais son cœur était un bloc de béton. Je lui écrivais des lettres 10 par jour. Je t'aime et je t'aimerai toujours. La seule réponse à mes illusions fut non, non, non. Le papier peint me sort par les yeux. Les voisins me bassinent un peu. Je passe ma vie à faire le 12. Je sais ce qu'il te faut. Du blues, du blues. Plus sur la terre que du beurre fondu, avec le dernier soupir du dernier disparu, dernier boom de la dernière guerre, dernière ville sous la poussière et dernier espoir perdu. Ce chemin vert sous les arbustes est protégé par les premiers soupirs des tout premiers baisers, premier mot de la première heure, première minute d'un bonheur, premier serment partagé.
Très jolie la manière qu'a Michel Jonas de s'écouter et d'écouter les mélodies, les arrangements, de repenser peut-être à certains auteurs des chansons, à ses chansons, puisqu'il écrit aussi et il compose Michel Jonas depuis longtemps. Oui. Peut-être que Les Fourmis Rouges, ça reste votre chanson préférée ?
Oui, et je pensais à ça en fait. C'est vrai que j'écoutais parce que je me suis rendu compte
Vous aviez des mains croisées.
Oui, parce que en fait, je fais une grande comparaison avec la manière dont je la chante aujourd'hui.
Ah, oui.
Et je me suis rendu compte que je suis beaucoup plus lent que la version originale. Mais c'est assez classique, ça. Voilà, et je la joue au piano. Oui, parce que j'aime bien cette chanson, c'est vrai. Et puis, ce qui me plaît, c'est que ça n'a pas du tout été un tube comme ça a pu être pour, je sais pas... des chansons qui sont beaucoup passées comme La Boîte de Jazz ou Joueur de Blues. C'est une chanson qui a connu son succès par la scène. Elle passait pas à la radio, Les Fourmis Rouges. Vous la passez, merci, mais elle a été connue parce que je l'ai beaucoup chantée sur scène et que les gens l'ont appréciée comme ça.
Elle est devenue un tube.
Elle est devenue un tube grâce à la scène.
Et puis elle était un petit peu écolo avant l'heure.
Oui, c'est vrai. Hein, ben, c'est-à-dire, puis en même temps, quand il n'y aura plus sur la Terre que du beurre fondu, c'est vrai que ça annonçait déjà le réchauffement planétaire.
C'était le côté optimiste de Jonas.
Voilà, c'est ça. Le côté ashkénaze, vous pouvez dire.
Voilà, le côté ashkénaze. Alors, vous écoutez aussi les jeunes musiciens. Est-ce que vous écoutez d'ailleurs beaucoup de musique qui est autre que la vôtre, mais
J'en écoute quand je suis dans ma voiture. Oui, j'en écoute. Je ne sais pas si j'en écoute beaucoup, mais j'en écoute.
Je sais que vous aimez le groupe Feu Chatterton.
Oui, j'aime bien, je trouve ça assez original. Je ne les ai pas vus sur scène, j'avoue. Mais j'ai vu plein d'images, plein de clips. C'est assez sympa à voir.
Avec le dandy Arthur Teboul.
Oui, voilà, c'est ça, je l'aime bien.
Il a de l'allure, Arthur Teboul.
Il a de l'allure.
Et il chante « J'ai tout mon temps » avec Feu Chatterton.
Moi qui voulais vivre vite pour que ma vie dure longtemps, moi qui voulais vivre lentement pour retenir le temps, j'ai fait du mieux que j'ai pu, et même si l'ombre est venue, figez mes pas, ne t'en fais pas. J'ai tout mon temps pour aimer, maintenant, tout le temps de t'aimer, maintenant. Que l'amour est né, il ne peut plus s'éteindre, il me brûle de joie. Et si l'amour te vient, que ferais-je? Chanterais-je à tes enfants des berceuses que la nuit abrège, où partirais-je en courant? J'ai le temps de décider à présent. Tout le temps de t'aimer. Maintenant que l'amour est né, il ne peut plus s'éteindre. L'amour est mon chez-moi. Maintenant que le soleil est couché, j'ai le temps de t'aimer pour une éternité. Maintenant que l'amour est né, il ne peut plus s'éteindre. Il me brûle de choix. Il me brûle de choix. L'amour est mon chez-moi. L'amour est mon chez-moi. Désormais que le soleil est couché, j'ai le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai le temps, tout mon temps patiemment. J'ai le temps de t'aimer pour une éternité.
La balade Vincent Josse sur France Inter.
Quand on n'est pas musicien, Michel Jonas, quand on n'est pas auteur, compositeur, interprète comme vous l'êtes depuis pas mal d'années maintenant, on aime bien savoir comment on écrit une chanson. Est-ce que Michel Jonas écrit des chansons d'une manière particulière, avec un mode d'écriture particulier, avec un clavier chez lui ou je ne sais quoi?
Alors, moi, mon travail est vraiment basé, construit sur le texte. C'est-à-dire que si je prépare un album avec une douzaine de chansons, je vais attendre que les 12 textes, à la virgule près, soient finis avant de commencer la première note de musique. Mais, quand j'écris, disons que je... Vous voyez, je chantonne un peu,
oui,
je
tapote les doigts bougent,
avec mes doigts, les doigts bougent, etc. Donc j'ai déjà, quand j'écris le texte, j'ai déjà comme une espèce de pulsion. Je me pose déjà sur une espèce de vague rythmique à travers les mots. Et ça va se retrouver effectivement quand je vais concrétiser avec la musique. Mais avant tout, c'est les textes, parce que pour moi, la musique est là pour mettre en valeur les textes. Et puis, ma manière, si vous voulez, je peux pas écrire comme ça entre dans un café ou dans un truc, ou entre deux rendez-vous, ou entre deux spectacles. Il faut que je sois tranquille. Pour me lancer dans une aventure comme ça, il faut que je sois tranquille. Et il faut que je sois seul. Voilà.
Donc ça fait beaucoup de conditions.
Ça fait beaucoup de conditions, et c'est pour ça que c'est pas si évident que ça. Parce que là, par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup de spectacles, là, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc, je sais que si j'ai un spectacle tous les deux jours ou tous les trois jours, c'est pas propice à m'isoler et à rentrer dans ce truc d'écrire des chansons que j'adore. Mais c'est un exercice, si vous voulez, intérieur. Alors que la scène, on extériorise ce qui a été écrit. Parce que pour moi, le but d'écrire, d'enregistrer, encore une fois, c'est la scène.
Alors à la fin de l'écriture de la chanson, puisque ça commence par les mots, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Jonas qui trouve la musique, ou est-ce qu'il va dire ses textes à des musiciens qui vont peut-être
moi je suis auteur-compositeur.
Bien sûr, mais...
Non, moi j'écris et je compose seul. Ça, j'ai besoin de ça.
Là aussi, enfermé, tout seul.
Tout seul. Mais par contre, à partir du moment où la chanson, elle est finie, paroles et musique, alors là, il y a un travail. Par exemple, pour se chanter le blues, ou l'avant-dernier aussi, la Méouge, le Rhône, la Durance, où j'ai travaillé avec Jean-Yves D'Angelo et Manu Katché. Je leur ai confié un petit peu les arrangements, la réalisation de l'album, et on l'a fait ensemble. Là, oui, là, on a besoin des autres, évidemment. Mmh. Donc, pour la conception, et ça m'apporte beaucoup. Bien sûr, ça peut même me faire changer certaines musiques, parce que des fois, ils me disent, ah ben là, on trouve pas. Je sais pas, il y a un truc là. Ah bon, ben alors peut-être que je me suis trompé. Et peut-être qu'il faut que je compose différent, parce que le texte, je l'aime bien. Mais peut-être qu'il faut que je fasse... Vous voyez, pour chanter le blues, par exemple, que vous avez passé tout à l'heure, ça s'est passé comme ça. J'avais fait une autre musique, et je leur confie ça, et puis quelques jours après, ils me disent, on trouve pas, hein, on trouve rien. Et je me suis dit, il y a un problème. Et j'ai repris le texte et je suis parti pas complètement ailleurs, mais le refrain n'existait pas, par exemple. Chantez le blues, il n'existait pas. Donc, vous voyez, c'est vraiment un échange, comme un ping-pong, vraiment.
Ouais. On peut vous dire les choses.
Ah, mais on peut me dire les choses, bien.
Michel
bien,
Jonas n'est
pas alors,
susceptible.
Alors, il ne se gêne pas. Hein. Manu Katché, Jean-Yves D'Angelo ne se gêne pas pour me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça on trouve rien, ça on trouve pas.
On retravaille.
Et puis après, bien sûr, on se retrouve en studio avec d'autres musiciens. Et bien sûr, là c'est important. Hein.
Il y a une jeune musicienne qui est très douée aussi, qui s'appelle Pomme.
Ah oui.
Ça fait partie de vos choix.
Je l'aime bien, Pomme.
Pourquoi?
Je l'avais vue déjà il y a longtemps, hein, quand elle commençait, elle débutait. Il y avait quelque chose chez elle d'un peu fragile. Je sais pas, puis j'aimais le son de sa voix. Déjà, bah, c'est déjà le principal, quoi. C'est déjà quelque chose.
D'être attrapé par une voix.
Bah, par une voix, par l'émotion de la voix. La voix, c'est très relié à ce qu'on est soi vraiment à l'intérieur. Et j'aimais beaucoup sa voix, sa fragilité. Il y avait un petit côté naïf que j'aimais beaucoup. Et puis je sentais qu'elle avait aussi une exigence vis-à-vis d'elle, vis-à-vis des chansons qu'elle chantait, vis-à-vis des mots qu'elle chantait. Je me suis dit, elle peut y aller doucement, progressivement, mais voilà.
Elle est en train d'écrire, Pomme, un disque en prenant comme thème chaque saison. Un premier volet sort en décembre, le volet automne-hiver, et elle propose déjà un premier titre, Des cartes de Noël.
Joyeux Noël, je pense à toi. Je sais que tu ne reviendras pas. Qu'est-ce que tu feras cette année? Il y a ton frère juste à côté. À Montréal, le ciel est froid. Je sais que tu ne répondras pas. Moi, je voyais notre amitié comme un refuge après l'été.
C'est d'abord, ça incarne le fait que c'est quoi une chanson ? Une ligne mélodique, des accords et un texte. Et on a besoin de rien, des fois. C'est pour ça que moi, j'adore faire mon piano-voix avec Jean-Yves D'Angelo. Et là, elle incarne ça. Et c'est très, très joli. Et c'est simple. C'est complètement dépouillé. On s'accroche à sa voix, qui est bien mise en valeur, justement, évidemment. Et à cette petite histoire qu'elle raconte, qui est assez émouvante, je trouve. Et puis avec cette petite surprise mélodique, c'est-à-dire... Et à un moment, boum, off, ça dévie ailleurs. C'est ça que j'aime. C'est-à-dire, vous savez, des surprises dans la mélodie. C'est-à-dire, on s'attend à... Et puis non, on vous amène ailleurs.
Ah, vous faites ça, vous ?
J'essaye de faire ça.
Oui, c'est vrai, pas mal de chansons.
Oui.
Dans Chanter le blues, le dernier disque de Michel Jonas, il y a un musicien qu'on aime bien, qu'on connaît bien, qui s'appelle Chédid, Mathieu Chédid. Il joue de la guitare sur un titre.
Sur un titre, sur Chanter le blues, faire du blues, faire du rock'n'roll. Alors, il y avait un solo qui avait été fait par Dean Parks, et puis j'avais envie, parce que je l'adore, ce mec-là, je le connais depuis qu'il est môme, quoi. j'avais envie qu'il nous fasse une deuxième version avec son solo à lui.
Vous
l'avez accepté.
Vous êtes copain du père, Louis ?
Oui, bien sûr. Oui, puis je l'ai vu démarrer, mais M. Et puis j'adore. En plus, vraiment, même si je l'avais pas connu, si c'était pas le fils de mon pote, il a vraiment du talent. Et puis il a une présence incroyable. Il est vraiment, vraiment dans cette génération-là, vraiment doué.
Il chante avec Gaëtan Roussel en
oui,
ce moment.
Oui.
Une chanson qui s'intitule « On ne pleure pas dans l'eau ».
C'est ça.
si on se dit qu'on n'est pas vraiment d'ici.
C'est quoi toi, c'est quoi ton pays?
Si on se dit qu'on n'a pas tout réussi.
C'est où toi, c'est où ton ici?
C'est peut-être une étoile filante, un bout de tissu, une tente. C'est peut-être une villa sur les pentes, un bout de toi, une attente. C'est quoi toi, c'est quoi ton avis?
C'est où toi, c'est où ton ainsi?
C'est quoi toi, c'est quoi qui t'adoucit? C'est peut-être le miel qui t'apaise, ou peut-être le ciel, les falaises, ou au bord de la mer, un îlot. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. 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 On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.
Ça y est, Michel Jonas bat à nouveau la mesure.
Oui, mais c'est super ça, hein. J'aime beaucoup ce...
Vous aimez ça, hein?
J'aime beaucoup cette chanson-là et leur voix.
Vous m'avez dit, oh, j'aimerais avoir deux heures de balade pour faire écouter d'autres musiciens.
Oui, d'autres musiciens ou des gens de ma génération que j'adore.
Comme, mon ami Souchon.
Souchon, mon pote Souchon, Cabrel, le Forestier, enfin voilà. Il y en a tellement des gens que j'aime et puis c'est vrai. Mais j'aime aussi découvrir effectivement la nouvelle génération que je connais moins bien. Et puis j'aime bien qu'on me fasse découvrir des choses. Souvent, ma fille ou bien mon fils me dit hey, « Tu connais ça, hey, écoute ça, et puis, etc. » Et ils me font découvrir, alors pas forcément des Français, mais des gens qui sont vraiment bien, quoi.
Des auditeurs m'ont écrit comment est habillé Michel Jonas. Est-ce qu'il a une chemise hawaïenne? Est-ce qu'il
oui.
A... Et en fait,
non,
ah, vous avez quand même quelques fleurs sur la chemise.
Un petit peu coloré.
Sinon, veste grise et pull gris. Vous ressemblez à un médecin maintenant. Merci d'être venu dans
médecin.
La balade.
J'aurais bien aimé être médecin.
C'est vrai?
Ah oui, ça m'aurait plu.
Ah oui.
Si j'avais pas été chanteur. Mais je t'ai dit tout souvent, si j'avais pas été chanteur, j'aurais aimé être soit cuisinier, soit médecin.
Vous pourriez être médecin au cinéma ou au théâtre? Vous avez cette faculté-là aussi.
J'ai été vétérinaire dans un téléfilm. Mais effectivement. Mais quand je dis ça à des gens, ils disent, tu sais, avec tes chansons, tu fais du bien. Alors ça me suffit.
Merci d'être venu faire un tour dans la balade. Je rappelle le titre de votre disque. Chantez le blues. Et puis vous êtes demain à Orléans, jeudi à Marseille. Est-ce que vous reviendrez à Paris bientôt?
Alors, on vient de faire le Casino de Paris. On refera, avec ce spectacle pour fêter les 10 ans du piano-voix avec Jean-Yves D'Angelo, les Folies Bergères vers la fin mars.
Anne Weinfeld a réalisé cette émission, Fanny Leroy m'a aidé à la préparer, Valentine Chédébois et Michel Jonas ont programmé la musique, il y avait à la technique Alix Barrois. Retrouvez la balade sur franceinter.fr et revenez demain à 17h s'il vous plaît pour le grand atelier de la plasticienne Sophie Kahl. Elle invite le metteur en scène Julien Gosselin.